Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman. Qui reçoit aujourd'hui le professeur Alain Prigent. Bonjour.
Bonjour.
Professeur Alain Prigent, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que nous allons parler d'un sujet passionnant. Mais difficile parfois à comprendre pour tout le monde, qui est la médecine nucléaire. Parce que dans le mot nucléaire, ça fait peur, la médecine, ça fait plutôt du bien, on y va pour être soigné. Et donc on va essayer d'expliciter ce qu'est cette spécialité qui a entraîné votre enthousiasme. Au point que vous voilà doublement professeur, puisque vous êtes professeur des universités en physiologie, c'est-à-dire la compréhension des mécanismes, et ça depuis 91. Et puis aussi en biophysique, je dirais en 96, quelques années plus tard. Et on va voir qu'il y a toujours cette double approche, puisque vous êtes chef de service de biophysique et médecine nucléaire. On voit bien la base physique, bien sûr, de cette forme de médecine. Et vous avez été, vous êtes encore, dirigeant du pôle images et fonctions. Donc dans cette détermination, il y a le mot image, l'imagerie, je dirais, et puis aussi les fonctions qui peuvent être beaucoup plus actifs, puisque on va voir qu'avec cette médecine nucléaire, on va agir, on va pas simplement regarder et faire du diagnostic. Vous êtes donc à la faculté actuellement Paris Sud, à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, et j'ai envie de vous dire tout de suite, comment situe la France dans ce domaine?
Eh bien, elle se situe pas mal, assez récemment en fait. Une des particularités, c'est comme nous avons été très gênés par certains lobbies, bon, qu'on ne détaillera pas, mais enfin sur l'implantation de la médecine nucléaire moderne en France ces 15 à 20 dernières années, il s'est trouvé que donc...
Il y avait des lobbies qui étaient contre ?
Ah oui, oui, il y avait... C'était... Dans notre société, malheureusement, quelle qu'en soit la justice, l'enseignement ou la santé, il y a toujours des rivalités, il y a des intérêts économiques. Donc, par exemple, le développement de la médecine nucléaire et des choses dont nous allons parler aujourd'hui, qu'on appelle les imageries multimodalités, qui ont été vraiment cette révolution de la médecine nucléaire, parce que si la médecine nucléaire était elle-même, il y a une trentaine d'années, une vraie révolution, les premières injections de produits radioactifs ont été faites en France. Joliot, Curie a apporté quelques millicuries et on a fait une scintigraphie de la thyroïde à l'époque. Donc si on avait vraiment une ancienneté, un historique très particulièrement brillant, dans la mesure où la démographie des imageurs, pour faire simple, dans laquelle je ne classe pas les médecins nucléaires, mais des imageurs, il y a 10 fois plus de radiologues que de médecins nucléaires. Donc à chaque fois qu'il est question d'acheter un appareil d'imagerie, eh bien il y a un fort lobby. Ce lobby n'est pas universitaire, c'est un lobby à la fois industriel et privé. Et donc si la médecine nucléaire a pu se développer enfin récemment et être vraiment d'assez bonne qualité en France... C'est parce que nous n'avons pas pu installer de ces fameuses caméras TEP, PET scan, on verra ce que ça veut dire. Enfin, en général, le public est au courant de cette révolution, puisque ça a complètement changé la prise en charge des maladies. Pas leur diagnostic, mais la prise en charge. Le bilan pré-thérapeutique, le suivi thérapeutique, la guérison, l'efficacité. Ça a complètement remis en cause toute la médecine. Donc le mot révolution n'est pas mieux choisi que pour cette activité particulière. Et bien, il a fallu que ce soit les oncologues qui disent il y en a assez, nous voulons ces machines. Il y en avait 17 en Belgique, 30 en Allemagne, 8 en Angleterre, il n'y en avait aucune en France. Les deux seules machines TEP que nous avions à l'époque étaient de recherche. Donc ça a été un vrai combat difficile. Et puis, ce retard a permis que, pendant que se développait cette imagerie TEP classique, on verra que ça détecte des rayonnements ionisants, des rayons gamma, on viendra sur ces termes souvent mal compris, on a associé un petit scanner. Donc le scanner, chacun sait ce que c'est des rayons X, ça tourne en tout temps impatient. Et grâce
on va revenir sur cette définition des appareils. D'abord, voilà. la généralité, c'est que vous êtes en train de passer comme information, professeur Prigent, ouais. C'est qu'il y a eu quand même un retard à l'équipement de cette médecine nucléaire.
Tout à fait.
Alors, peut-être on pourrait préciser...
Il est rattrapé, hein, il faut quand même le dire honnêtement, il
Tant
est rattrapé
mieux.
Et de qualité.
Mieux.
De qualité.
Simplement préciser, donc, c'est, vous avez dit le mot imageur. Mm-hmm. Alors, effectivement, il y a une confusion un petit peu dans toutes ces formes où il y a le mot radio.
Absolument.
Parce qu'il y a le radio diagnostic, on va faire un cliché du poumon. Il y a la radiothérapie, on envoie des rayons pour traiter une tumeur. Et puis, il y a la médecine nucléaire, où il y a le mot médecine nucléaire.
Absolument.
Et le mot nucléaire fait peur. Parce
Bien
que,
sûr.
Voilà, nucléaire. Alors, pouvez-vous, professeur Prigent, un peu expliciter ?
Dans certains pays, on a circonvenu le mot nucléaire en appelant ça isotopiste, par exemple. Hein, mais enfin, la réalité est là. Et puis, c'est pareil, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, elle est nucléaire. Mais on a supprimé le N, donc on parle de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire, mais on parle que d'IRM, imagerie par résonance magnétique.
Alors, pourquoi le mot nucléaire ?
Ah bah le mot nucléaire fait peur parce que dans notre imaginaire et dans notre passé aussi, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Hiroshima, etc.
Oui, mais là, pourquoi est-ce qu'on utilise le mot nucléaire pour Alors, cette forme de médecine ?
En effet, c'est
en quoi
que
le noyau intervient ?
Tout à fait. Alors les émissions sont nucléaires, c'est-à-dire que ce soit des rayons gamma. Les rayons gamma, ce sont des rayons qui sont comme les rayons X ou comme la lumière, hein, c'est électromagnétiques, qui sont un peu plus puissantes, c'est-à-dire qui sont plus énergétiques, mais qui sont de même nature. Donc il est tout à fait frappant d'observer, par exemple, que l'ensemble de la population n'aura pas peur d'un scanner qui pourtant va délivrer plus de ionisation, donc d'atteinte radioactive, entre guillemets, de ce qui est vu comme péjoratif, qu'une simple examen de médecine nucléaire. Donc l'immense majorité des examens de médecine nucléaire sont moins irradiants qu'un scanner et pourtant on a peur de ce
Mais peut-être on revient vraiment à la toute base.
Mm-hmm.
Le noyau, l'atome, d'où proviennent les radiations qu'on
alors,
va utiliser. Comment on les a découverts d'abord ?
Alors on les a découverts, c'est vrai, de façon tout à fait un peu par hasard. C'est-à-dire qu'on avait laissé une pierre sur une plaque photographique et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose sur la pierre, enfin sur l'image, l'image
le
sensible.
Papier photo.
Voilà, exactement.
Imprimé.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait une émission qui venait.
Donc une radiation.
Voilà. Alors après différents travaux, on montrait que ce n'était pas des choses qui étaient au niveau du noyau atomique, enfin du nuage atomique qui était, du nuage électronique qui était autour, pardon, de cette petite course qu'on imagine toujours comme ça, mais que ça venait de la partie centrale du noyau elle-même. Donc des éléments du noyau vont, vous savez qu'il y a des protons et des neutrons en équilibre à peu près particulier, et c'est ça qui différencie en fait toutes nos molécules, sinon c'est toujours d'un basique, c'est comme les mots, hein, c'est les mêmes alphabets avec quelques éléments de base et puis tout un tas de produits chimiques. Donc au sein de ce noyau, parce qu'ils sont instables, ils vont se transformer de l'un dans l'autre en émettant une radiation.
C'est-à-dire que les noyaux sont constitués de protons et de neutrons,
Absolument.
Ce qu'on appelle les nucléons,
oui.
Et qu'ils sont entourés donc par des éléments
à distance. Voilà, ils sont
à distance.
Voilà.
Des particules élémentaires
oui, hein,
qui tournent autour. Mm-hmm. Et ces noyaux, le rapport entre les protons et les neutrons n'est pas toujours stable.
Exactement.
Et dans cette, il va rechercher une stabilité.
Exactement.
Et dans cette recherche, il va y avoir une émission.
C'est exactement ça.
Donc on est vraiment au cœur. Puis après on peut même descendre parce que c'est constitué de quarks. Il y a encore d'autres éléments physiques.
Oui.
Mais j'en profite parce qu'on est aujourd'hui en fait les 70 ans du CEA et donc évidemment on revient sur toutes ces notions. C'est le jour ou jamais ou la semaine ou jamais. Et avec vous Alain Prigent, on évoque comment cette connaissance physique va être appliqué à la médecine. Donc voilà pour l'instabilité du noyau et l'émission de radiation. Mais alors, on dit souvent qu'il y a des radiations alpha, des radiations bêta, des radiations gamma.
Tout à fait.
Quelle est la différence de
eh bien,
tout ça ?
C'est intéressant de venir juste uniquement à ce moment-là. Donc les radiations les plus souvent utilisées en médecine nucléaire, en tout cas du point de vue du diagnostic, vont être des rayons gamma, c'est-à-dire la même nature que le rayon X, qui ne font peur à personne. Bon, et puis alors le rayon X, on va lui dire qu'il a mettons 40 keV, peu importe ce qu'est le keV, c'est une énergie, et le rayon gamma en aura 140, vous voyez, donc ça sera trois fois plus énergétique, mais c'est la même nature, strictement la même nature, ou encore que l'infrarouge, les rayons solaires. En revanche, il peut arriver que des vraies particules, c'est-à-dire quelque chose qu'un poids, un volume, etc., soient détachées. Dans ce cas-là, ça peut être, si ce sont des électrons, c'est-à-dire ces petits éléments qui tournent à toute vitesse autour, à distance du noyau, qui sont négatifs, le noyau étant globalement positif, si un se détache de la molécule, eh bien ça émet donc un électron. Cet électron va rentrer dans la matière et va avoir des tas d'interactions, et c'est là que ça va aussi faire ce qu'on appelle des ionisations, c'est-à-dire que l'effet négatif, enfin potentiellement négatif, parce que là encore, tout est une question d'échelle et les gens confondent souvent de quoi il en retourne, mais ces interactions des électrons au milieu de la matière vont créer d'autres ionisations avec des petites lésions éventuelles. Donc ça, c'est utilisé en médecine nucléaire pour la thérapie, essentiellement, hein, puisque ça peut créer des lésions locales sur un faible parcours. On s'imagine bien que si on arrive à apporter ces électrons juste à l'endroit où, par exemple, il y a une tumeur, et une petite tumeur, et non pas une énorme tumeur que la radiothérapie externe ou que la chirurgie pourrait retirer ou traiter, là où il y a des tas de petites métastases diffuses, le produit ira directement porté par un vecteur, comme on dit, apporter ses électrons. Et il y en a un autre...
Et il va détruire les cellules,
voilà, c'est ça l'idée, c'est ce qu'on appelle, donc le mot est devenu un peu prétentieux, avant on appelait ça radiothérapie interne, maintenant, grâce aux Anglais, on appelle ça radiothérapie interne vectorisée, parce qu'en effet, on n'injecte pas l'électron comme ça dans le sang, on le met sur un vecteur...
Un transporteur,
qui est tout à fait spécifique de l'endroit où on veut aller. C'est ça qui est intéressant, il est spécifique. À la différence de la radiothérapie externe...
Ah oui,
externe,
parce que sinon, si ça touchait toutes les cellules, voilà, on ne s'en sentirait pas.
Et enfin, la dernière type de particule qu'il faut connaître, qui est utilisée là encore uniquement en thérapie, et encore c'est récent, c'est récent, il y a eu quelques autorisations de mise sur le marché, comme on dit, ce qui sont des émissions de particules alpha, donc là qui sont des émissions de quasiment de quatre petits noyaux, quoi. C'est très très lourd.
C'est l'hélium
Oui, c'est ça, c'est en effet un noyau d'hélium. Alors, comme c'est beaucoup plus lourd, ça va encore beaucoup moins loin et ça irradie beaucoup plus sur place. Donc c'est de la même nature au niveau du traitement, ça va créer des ionisations à partir des molécules d'eau qui elles-mêmes vont détruire telle ou telle substance de la cellule, dans la membrane, du noyau, que sais-je. Mais l'intérêt c'est que là, ça va encore moins loin parce que c'est plus gros, si j'ose dire. Donc on peut imaginer aujourd'hui, et c'est ce qui se fait quelquefois, d'injecter à la fois des produits qui auraient le même vecteur, un vecteur qui donne des électrons, donc les petites particules dont j'ai parlé, négatives, un vecteur qui donne des particules alpha, et qui permettent ainsi d'irradier non seulement la tumeur en tout son centre, là où elle est la plus active, mais aussi un petit peu à distance par les électrons qui vont un peu plus loin. Donc c'est devenu une médecine tout à fait extraordinaire, et aujourd'hui il y a déjà des AMM,
dans les autorisations
de mise sur le marché, c'est un peu jargonnant, qui étaient autrefois simplement pour des traitements qu'on dit palliatifs, c'est-à-dire que les gens qui avaient des métastases osseuses pouvaient avoir pendant... très longtemps, grâce à ces traitements, une stabilisation des tumeurs. Hein. Je crois qu'on ne trahit pas beaucoup en disant que le président Mitterrand a eu ça pendant des années. La médecine nucléaire, et ça ne lui faisait pas peur. Mais bon, comme ce n'était pas diffusé, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences au niveau de ce qu'on pouvait en faire. Et aujourd'hui, on a un nouveau produit donc, qui, lui, traite directement ces métastases osseuses avec un allongement de la vie. C'est-à-dire une amélioration de la survie, ce n'est pas simplement palliatif. On ne peut pas guérir, mais on améliore la survie.
Alors, radioactivité artificielle découverte en 1934. Donc, on est donc avec des traceurs qui permettent de suivre, d'abord de visualiser les cellules, parce qu'on part déjà ce qu'on va appeler la scintigraphie par gamma caméra, et qui va d'ailleurs permettre quelques prix Nobel autour de ça.
Unger, etc.
Et une des premières, je crois que c'est la thyroïde.
Grâce à Joliot-Curie, justement, qui, à partir de ses premiers... Millicurie d'iode radioactif iode 131 a permis de faire, de l'injecter chez l'homme et de voir la thyroïde.
Donc là, on est sur un aspect visuel, de localiser les tumeurs comme une espèce de planche d'anatomie, en envoyant donc sous contrôle des traceurs spécifiques qui vont aller sur l'organe voulu. Donc on a la scintigraphie osseuse, on a la scintigraphie du rein, des poumons, cardiaques, qui utilisent chacun un élément différent, tantôt c'est le krypton, tantôt c'est le thallium, tantôt c'est le technicon, enfin bon, je suppose qu'il y en a plein d'autres, que vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Et première question, déjà dans cette phase de scintigraphie, donc d'imagerie, où il y a eu beaucoup de progrès, est-ce que c'est dangereux?
Alors, ce n'est pas dangereux à tel point que les recommandations aujourd'hui sont de ne prendre aucune précaution après une scintigraphie, C'est-à-dire que pendant quelques temps, on disait il faut faire très attention, ne vous approchez pas de votre enfant pendant quelques temps, ne montez pas dans le bus, etc. Et aujourd'hui, les mesures ont été faites, alors non plus simplement, dictatoriales ou des affirmations comme ça. On a fait des vraies mesures. Et donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune précaution à prendre. Je dis bien ici, dans les examens diagnostiques, hein, si on vous a donné une forte dose d'activité radioactive pour traiter un cancer de la thyroïde, eh bien, pendant quelques temps, d'ailleurs, vous êtes hospitalisé dans une chambre qu'on dit protégée ou plombée. Et d'ailleurs, c'est moins parce qu'il y a une forte irradiation que parce qu'il faut recueillir les produits radioactifs qui ne doivent pas s'échapper dans la nature et qui sont pris dans des cuves. Il n'y a aujourd'hui moins d'irradiation, même si les gens sont très affolés, après une scintigraphie qu'après que ce qui est délivré vraiment lors d'un examen de radiologie, et en particulier de scanner.
Alors ensuite, on a d'autres... Donc ça, c'est l'examen scintigraphique. Et puis, on parle beaucoup des positons, des émetteurs à positons. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est.
Avant d'en venir là, oui. je voudrais faire une précision sur ce qu'est la scintigraphie dite souvent classique. Maintenant, c'est comme ça qu'on l'appelle pour éviter... Enfin, pour la départir du PET scan ou du PET et du positon, sur lequel on va bien sûr s'étendre, parce que c'est aussi une des grandes révolutions actuelles. Lorsqu'on fait une scintigraphie, par exemple du cerveau, hein, on a vu tout à l'heure le rein, l'os, etc. La différence avec un examen de radiologie, qui lui va situer, localiser, c'est que là on n'étudie pas seulement l'endroit ou la forme, on étudie la fonction. C'est-à-dire que si je veux faire une scintigraphie du rein, je peux choisir un traceur qui va me renseigner sur la quantité d'urine filtrée, ou un traceur qui va me renseigner sur la quantité de sodium réabsorbé, ou un traceur qui va me renseigner sur l'endocytose dans un tubule particulier du rein, etc. Donc on a à chaque fois un traceur spécifique, non pas seulement d'une localisation, mais d'une fonction.
C'est pas une image statique.
Alors en plus, c'est pas une image statique, car en effet, la cinétique de distribution de ce produit dans le rein renseigne tout à fait. Pour le cerveau, on peut avoir des produits qui vont nous renseigner sur le fonctionnement des noyaux gris centraux, là où se situe le primum movens des maladies de Parkinson ou des syndromes parkinsoniens. On peut avoir des produits qui vont nous renseigner sur la perfusion cérébrale, d'autres sur la consommation de glucose, etc. Donc ce qui est tout à fait extraordinaire en médecine nucléaire qui n'a pas d'équivalent, c'est que justement, comme on a affaire à un vecteur, eh bien on choisit ce vecteur en fonction de ce qu'on veut étudier. Et ce que vous disiez tout à l'heure à propos du thallium, du technétium, etc., c'est en fait la petite lumière qu'on colle au vecteur. On va faire une association entre un vecteur qui donne une fonction, et qui va bien sûr aller dans le rein si c'est du rein, sur une métastase osseuse si elle est en train de se reproduire, etc. Et on colle une petite lumière, et c'est elle qui émet les rayons dont on parlait tout à l'heure, les rayons gamma. Donc, en effet, on peut coller à ces vecteurs tantôt des émetteurs qui vont nous renseigner sur une image, mais si on sait, par exemple, que ce produit, ce vecteur associé à ce produit de diagnostic localise une tumeur, on peut changer la partie radioactive qu'on appelle, avant on disait radioisotope, maintenant on dit radionucléide, mais peu importe, c'est un peu jargonné aussi. On va mettre un qui est spécifique du traitement. Donc on va passer par exemple d'un produit qui était marqué à l'indium, qui localisait une tumeur, à un marqué qui va être marqué au lutécium, qui lui va être un fort émetteur de rayons gamma, donc de petits positons, qui va éradiquer complètement les nombreuses tumeurs. Et là, avec des nettoyages de tumeurs extraordinaires sur le corps entier, puisque ce sont des tumeurs d'emblée quasiment métastasées. Donc ça, c'était la scintigraphie classique, qui passe par les rayons gamma. Alors, le positon, eh bien, ça va aussi passer par les rayons gamma, mais avec un petit intermédiaire. Donc on a vu tout à l'heure qu'autour du noyau, il y avait un nuage, comme on dit, encore que l'image ne soit pas tout à fait juste, mais de petits électrons, de petites charges négatives, hein, qui grouillent dans tous les sens sur des orbites différentes. Eh bien, cette particule d'électrons a son équivalent en positif, qu'on appelle un positon. Et là, ce positon, là aussi, est émis hein, par le noyau. Ce positon émis, il va sortir de la molécule et rentrer dans l'organisme. Il va rencontrer un électron de la matière, de notre muscle, de notre cœur, de que sais-je. Et cet électron et ce positon, donc les deux équivalents, mais en janus, en si charge, j'ose dire, hein, un positif, un négatif, vont se transformer, hein, puisque c'est E égale MC2, c'est une formule que tout le monde connaît, là, il n'y a pas de problème. La masse de ces deux particules, positive et négative, va se transformer en rayons gamma. Et ces rayons gamma sont beaucoup plus énergétiques, bon, plus puissants, traversant plus fort, qui partent à 180 degrés l'un de l'autre. Et donc, ce qu'on va appeler des caméras à positons, ce sont en fait des caméras qui vont détecter les rayons gamma issu de la transformation du positon, ça s'appelle une annihilation, avec un électron. Et là, c'est très important parce que pour des problèmes de physique, j'entends, de correction physique, d'artefacts physiques, on va avoir une image beaucoup plus précise, beaucoup plus quantitative. Car si j'ai pu expliquer tout à l'heure que ce qui fait vraiment la merveille de la médecine nucléaire, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut étudier. Il suffit de remplacer un noyau par un autre et étudier, on le verra tout à l'heure, les dépôts d'Alzheimer, la dégénérescence neurofibrillaire dans l'Alzheimer, des maladies, des gens qui sont en privation de crack ou au contraire de tabac par des différents récepteurs. Enfin, que sais-je, on peut étudier le nombre de récepteurs sur des cellules cancéreuses, la neurotransmission, la sécrétion d'hormones, bon, tout ce qu'on veut. Il suffit de mettre cette petite lumière, ce petit radionucléide qu'on pourra détecter. Donc là, je ne sais plus où j'en étais, parti dans cette...
était en train d'expliquer ce que c'était que gamma caméra positon.
Voilà. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir de manière beaucoup plus fiable une quantification. Et donc, la deuxième caractéristique extraordinaire dans la médecine nucléaire, c'est que c'est la seule méthode d'imagerie pour cette partie-là, dans la partie diagnostique, qui soit quantitative. Le scanner pourrait l'être. Hein, mais si vous acquérez, je sais pas moi, 120 images avec un scanner, le type va être grillé, quoi. Là, ça sera vraiment de Tchernobyl. Alors qu'avec la médecine nucléaire, vous injectez des quantités infimes, on l'a vu tout à l'heure, et bah, ça va émettre le temps qu'émet le radioactif.
Parce que on peut même injecter de la morora.
Absolument, hein, vous savez ça, hein, exactement. Le thallium, oui, c'est un exemple que je pense souvent avec les étudiants.
Non, mais c'est intéressant, parce absolument. Que ça veut dire que voilà, que c'est pas dangereux, puisque on utilise des quantités infimes, voilà, au point que...
S'il y a quelques chimistes dans l'auditoire, c'est de l'ordre de la nanomole, de la femtomole. Alors que lorsqu'on va injecter un produit de contraste iodé, c'est des millimoles, c'est des dizaines de millimoles qu'on injecte. Ce qui explique qu'en effet, on peut injecter un poison, comme le thallium, qui était la morora avant qu'on utilise des anticoagulants, pour faire de la scintigraphie myocardique. On va injecter des produits dérivés de la cocaïne pour rechercher s'il y a une pathologie de type parkinsonienne. Hein, donc c'est la troisième caractéristique, là on grille les étapes, entre le fait qu'elle soit quantitative, qu'elle soit sans limite et que ça étudie une fonction et non pas simplement une forme. Et en plus, c'est le fait qu'il n'y ait pas, il n'y a aucun accident sur, je crois, 70 millions d'injections de produits radiopharmaceutiques sur 9 ans aux États-Unis, c'est une publication récente. Il n'y a eu aucune hospitalisation pour effet secondaire, aucune mort.
Donc vous êtes rassurant et vous tenez à le faire savoir sur les bases que vous venez d'évoquer, c'est important, oui. Bien entendu. Où sont fabriqués ces éléments que vous allez, ces radioéléments que vous allez utiliser? Il y a eu un moment, on avait la crainte que Osiris, qui est donc le réacteur de recherche qui fabrique ces éléments que vous utilisez les uns les autres dans la scintigraphie, allaient devoir s'arrêter par vieillesse ou par je ne sais quoi. Où est-ce qu'on en est?
Ah, il y avait une pénurie. Est très intéressante, est très intéressante. Et en effet, la scintigraphie dite classique utilise, pour l'immense majorité de ces examens, un produit qu'on appelle le technétium, même métastable, c'est-à-dire qu'il va rester radioactif 6 heures. Hein, simplement. Bon. Et ce produit était un déchet des centrales nucléaires, de certains réacteurs nucléaires. Et comme on les fermait, parce que si vous voulez, c'est pas au niveau des centrales thermiques, hein, c'était vraiment des réacteurs de recherche ou des trucs de ce niveau-là pour faire des produits pour des armes atomiques, enfin de cette nature. Certains étaient trop âgés. Et dans le monde entier, les quelques machines qui étaient faites, il fallait les arrêter ou les renouveler avec des prix fantastiques. Alors ça posait un problème, parce qu'en effet, 90% des examens, c'est pas positon ça, hein, c'est la classique, 90% des examens utilisaient ce produit, il y allait y avoir pénurie. Alors ce qu'on a fait au niveau mondial, d'abord il y a eu des projets, hein, notamment le CEA s'est engagé sur... Le réacteur Jules Horowitz a éventuellement faire une production de molybdène. Le molybdène, c'est le produit qui nous permet d'obtenir dans le service, à chaud, comme ça, comme si on dit traire une vache de molybdène pour obtenir le technétium. On voit bien l'image, c'est une préparation extemporanée, tout de suite. Donc ils ont fait ça, et puis il y a d'autres pays qui essaient de l'envisager. Ça, c'est le premier point, mais ça allait prendre du temps, donc la pénurie risquait d'arriver. Alors au niveau des autorités sanitaires, à la fois l'Agence du médicament et puis la Société française de médecine nucléaire, ont rationalisé l'emploi, parce que c'est un petit peu compliqué encore, ce produit, c'est pas.
Sans trop rentrer dans le détail,
oui,
je veux dire.
Voilà. En donc fait, on a optimisé.
Vous avez voilà. la matière pour le
on
faire.
On a optimisé.
Parce qu'à un moment donné, on a cru
et
qu'on
certains
en
examens
plus.
Et certains examens sont aujourd'hui substituables, comme on dit, c'est le grand nom. Non plus simplement en passant en radio ou en IRM, mais en TEP, en PET scan, c'est-à-dire que le fluor 18, qui est la molécule la plus employée, donc c'est la petite lumière radioactive hein, qui émet les positons. Le fluor 18 peut être collé sur d'autres molécules qui permettent, sur les nouvelles technologies, d'avoir les renseignements qu'on avait sur l'ancienne machine.
Bon, donc en un mot, la crainte qu'il y a eu dans les années récentes,
oui,
là...
Oui. Mais ça a été en effet une crainte.
Mais parce que, oui,
ça
non, mais parce que même,
énorme.
On a dit que l'arrêt définitif du réacteur, ce serait en décembre 2015. Ça va être là. Donc ça, c'est pas le cas.
Bah, si ça s'arrête, parce qu'en effet, c'est le cas, probablement, ça ne changera pas. Mais on a des alternatives maintenant qui permettent de pouvoir s'arranger.
France Culture, Révolution Médicale, René Friedman.
Professeur Prigent, nous sommes donc sur ces électrons, ces positons qu'on utilise en médecine, d'une part pour faire le diagnostic, mais également pour traiter, on va y venir, on est un peu plus sur la partie diagnostic au cours de cette première partie de l'émission. Et je m'aperçois, en vous écoutant, que finalement, en tant que médecin, vous avez une vision de tous les organes sont accessibles, enfin doivent être accessibles, et je comprends mieux le fait que vous soyez professeur en physiologie et professeur en biophysique, puisque vous faites vraiment la comparaison de tout le fonctionnement du corps grâce à l'utilisation donc de ces marqueurs physiques. Donc ça vous demande un peu de jongler et de connaître tous les modes de fonctionnement, en tous les cas, pour pouvoir mieux diagnostiquer. Est-ce que je suis toujours dans la partie diagnostic, donc reconnaître une pathologie, une fonction dégradée, ou bien sûr l'apparition de tumeurs, puisque on est vraiment dans un domaine où la cancérologie a beaucoup de place. Est-ce que vous voyez des développements encore sur le plan diagnostic? Ou c'est un problème d'accessibilité, de moyens, comme
alors,
vous avez dit,
oui,
on a eu du retard, puis on l'a comblé.
Ce qui gêne aujourd'hui, ce sont plus les réglementations même que l'argent. On dira un mot tout à l'heure, parce que c'est quand même important. Il y a le mot, hein, il y a deux handicaps à la médecine nucléaire. Le premier, vous l'avez abordé d'emblée, c'était le mot de nucléaire. Nucléaire, c'est Tchernobyl, c'est Fukushima, c'est tout ça. Hein, c'est complètement absurde, parce que, une fois de plus, c'est comme si, je vais prendre un exemple qui me vient comme ça, s'il y a un retour de flamme ou un lance-flamme, hein, c'est une explosion atomique, là ça vous brûle, ça vous tue. Si vous êtes près d'un radiateur, ça vous chauffe. Donc il faut bien comprendre que la radioactivité qu'on utilise, qu'on dit à bas débit, non pas explosif mais à débit lent, et à faible énergie, ce qu'on utilise à la fois en médecine nucléaire et dans bien d'autres circonstances, ok, c'est nucléaire, mais ça n'a rien à voir. Un couteau peut être utile ou négatif, et pareil pour le feu. Donc, toutes ces images-là, on s'en sert. Et puis, alors, quand c'est mal compris, vous voyez, entre le becquerel, ça c'est l'activité qu'on appelait curie, le sievert, qui est une unité de radioprotection, et bon, tout ça se
mais c'est pour ça que vous êtes là, Alain Prigent, c'est pour justement essayer de clarifier un peu les choses. On va pouvoir la réécouter, l'émission, parce que évidemment c'est compliqué, mais c'est important d'avancer point par point. Donc on a une possibilité de diagnostic grâce, je veux dire, à ces traceurs, à cette gamma caméra qui va comme ça voir où est-ce qu'il y a des rayonnements une fois qu'on a envoyé un messager qui pointe l'organe visé. Et puis, donc, je vous posais la question, est-ce que encore dans ce, oui. dans ce, cet élément diagnostique, est-ce qu'on va passer dans des appareils entiers, du corps entier, ou est-ce que on a besoin de ça, est-ce qu'on a une précision d'imagerie?
C'est une question qui est pas futuriste, qui est pas révolutionnaire, qui est tout à fait vraie. Alors, d'abord, il y a des domaines, parce que toutes ces utilisations sont pas des traceurs comme ça devrait l'être. Le lobby pharmaceutique s'est inscrit là-dessus avec les industriels, donc c'est devenu des médicaments et ça coûte du coup très très cher. Hein. C'est comme le prix de revient, on entendait ce matin, je crois justement sur France Culture, de ce que coûte un traitement pour l'hépatite C et puis le prix qu'il est vendu. Ben là, c'est à peu près la même manière. Donc il y a dans le cas du cancer, le fluorodésoxyglucose marqué au fluor, c'est-à-dire c'est un sucre. Parce que les cellules cancéreuses ont un métabolisme, enfin une consommation de sucre anormale. Elles le consomment beaucoup. Et grâce à ça, quand on met un petit fluor sur du sucre, ça va s'accumuler dans les cellules. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais on peut aussi, de la même manière, faire tout ce qui concerne les infections et les maladies inflammatoires. Un exemple, auparavant, on faisait des endoscopies ou des biopsies très compliquées pour voir une atteinte digestive, des rhumatismes digestifs, hein, la rectocolite hémorragique, les maladies de Crohn. Bon, ça vous parle plus, moins peut-être aux auditeurs, mais c'était des maladies inflammatoires qui touchaient différents endroits de l'intestin. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. On injecte simplement ce produit dans le sang et on voit à quel endroit se situe l'inflammation. Pas seulement la partie froide et guérie, sclérosée, un peu caoutchouteuse, mais la partie vraiment active. Au bout de 15 jours, on a une fièvre, on ne sait pas d'où elle vient, on injecte le glucose radioactif, qui est aussi consommé par les leucocytes activés, et on voit qu'il y a un abcès hépatique, que c'est un accès dentaire qu'on n'a pas trouvé, et on a déjà fait 2 scanners, 3 IRM, 2 biopsies, etc. Donc l'infection, alors, beaucoup de types d'infections, je vais sauter les mots, mais... Donc, dans le domaine de l'infection, c'est énorme. Dans le domaine du rhumatisme et de l'inflammation, c'est énorme. Tout ce qui concerne les vascularites, déjà, c'est déjà même autorisé dans les recommandations de l'AMM. Et puis, à partir de ce fluorodésoxyglucose, on a aussi d'autres molécules qui, elles, ont aussi des AMM. Donc, il y a des molécules, par exemple
oui.
Comme la dopamine. On a la dopa, si on met un fluor dessus, ok, on va bien voir que ça marche pas dans le cerveau, il y a un problème s'il y a un syndrome parkinsonien, mais il y a beaucoup de tumeurs qui ont des récepteurs de la dopamine. Tous les gliomes, ces terribles tumeurs cérébrales, permettent, grâce à cet isotope très simple, l'examen, ça, c'est rien, on l'injecte et on voit, non seulement, alors à la différence d'une IRM ou d'un scanner, la grosse tumeur, hein, mais la grosse tumeur qu'on a traitée en partie par radiothérapie, chimiothérapie, est-ce qu'elle est toujours active? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours des cellules en train de bouger, de se multiplier? Ou sont-elles guéries et que c'est...
Donc ça va être dans le suivi d'une thérapeutique?
Absolument, oui, parce que le scanner restera l'examen, vous avez raison. C'est pour ça que je dis souvent que cette méthode est plus une méthode de médecine dans le vrai sens du terme que de diagnostic et d'imagerie.
Ouais. Peut-être vous pourriez réexpliquer à l'imprégnant, parce qu'on emploie souvent ces mots, IRM, scanner.
D'accord.
Et scintigraphie, on l'a fait.
C'est
mais
vrai.
IRM, scanner, quelle est la différence par rapport à ce qu'on vient de parler?
C'est vrai que quand on est immergé dans le domaine, ça paraît simple. Alors, un scanner, eh bien, c'est comme de la médecine nucléaire, hein, le scanner que tout le monde a. La seule différence, c'est qu'en médecine nucléaire, on injecte la petite source lumineuse dans le sang et le détecteur tourne autour de vous et recueille les informations. C'est ce qu'on appelle une imagerie d'émission. Le corps émet les rayons. Dans le scanner, les rayons sont de même nature, hein, j'insiste bien, ils sont simplement un peu moins énergétiques, moins brûlants si vous voulez, pour faire très simple. Et vous avez en regard d'un côté un émetteur de rayon X et le patient entre l'émetteur et le détecteur. Et le détecteur et l'émetteur tournent autour du patient. C'est une imagerie de transmission. Donc le scanner, c'est ça. Hein, c'est des rayons X.
Et qu'est-ce qui va vous faire choisir de faire un examen par radio, par scanner, par IRM?
Alors d'abord, pour le scanner et la médecine nucléaire, c'est une question, je ne dirais pas polémique, mais qui... D'abord, il y a le parc. Il y a beaucoup plus de scanners.
Ce dont on dispose,
oui, voilà.
L'argent.
Donc le scanner aujourd'hui a remplacé quasiment, en tout cas dans le public, sinon dans le privé, où il y a encore beaucoup d'imageries planaires, qui sont, disons, plus rentables pour faire court. C'est devenu l'examen de diagnostic, de dépistage. D'accord? Une IRM, alors ça marche complètement différemment. Il n'y a pas de radioactivité. Mais enfin, il y a encore des écologistes ou des gens très sensibles qui ont trouvé que ça pouvait être négatif. Là, on est dans un aimant. Et un grand aimant, très puissant.
Magnétique.
Magnétique, voilà. Et vous êtes dans cette machine. Et puis, avec une petite machine qui est à côté, on va faire basculer cet aimant. Hein, peu importe, c'est des ondes radio, tout bêtement. Donc cet aimant qui va agiter essentiellement des protons. Enfin, les protons se déplacent, il y a des spins. Oublions un petit peu ces choses un peu compliquées, mais c'est là-dessus que ça marche malgré tout. Donc on va faire basculer cette aimantation, arrêter l'aimantation qui l'a fait basculer, et on regarde à quelle vitesse le petit aimant revient dans sa position. Alors il y a de forts traitements mathématiques derrière.
Oui, c'est ça, il y a un logiciel...
C'est très très sophistiqué. Et donc là, en effet, il n'y a pas de rayonnement. Mais certains pensent maintenant, comme pour les iPhones ou les smartphones, qu'il y a des ondes électromagnétiques, et là, ça peut être dangereux. Voilà. Donc il y en a toujours un qui a peur d'être dangereux. Mais le bénéfice-risque, quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que quand on dit même un scanner, irradie plus que la médecine nucléaire. Mais il faut pas le prendre comme argument de supériorité de l'un par rapport à l'autre. On est dans des zones d'irradiation, contrairement à ce qui est écrit souvent et qui fait le buzz, comme on dit. Parce que les gens, si on leur dit, vous savez, la mammographie, c'est dangereux, ça crée le cancer du sein. Mais il faut voir de quelle étude c'est fait. C'est ni fait ni à faire. C'est la méthodologie est nulle. Mais c'est sorti et puis on s'y attache. Bon, non, la mammographie, c'est en rapport qualité-risque, c'est énorme, il faut la continuer. Il n'y a aucun doute.
Donc votre message est très clair, professeur ouais. Alain Prigent. On va revenir dessus dans la deuxième partie de l'émission. On va se reposer un peu par une musique. Enfin, je ne sais pas si on peut se reposer parce que la musique, c'est Radioactivity, choisie par le groupe Kraftwerk. Donc on est toujours dans le sujet. Voilà, donc Radioactivity du groupe Kraftwerk qui nous permet de rester dans le sujet que nous abordons avec le professeur Alain Prigent à l'occasion de ses 70 ans de la création du CEA. Donc nous abordons la médecine nucléaire. Médecine nucléaire qui a priori fait un peu peur et a posteriori, après cette émission, va vous décontracter et vous permettre de comprendre les progrès énormes en diagnostic qu'on peut avoir grâce à la maîtrise avancée de ces radioéléments qui donc émettent des rayons qui permettent de diagnostiquer telle ou telle anomalie de fonctionnement. Car c'est pas uniquement une imagerie de diagnostic, une cartographie, c'est aussi la fonction qui est sous-jacente que l'on peut voir, et ça c'est quand même quelque chose qui est totalement irremplaçable et évite des gestes très invasifs. Jusqu'à présent, il fallait faire des biopsies pour essayer de mieux comprendre. Alors, il y a bien sûr des éléments encore dans le domaine diagnostique qui a été fabuleux, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est quand même, je trouve, c'est ces images qu'on voit du fonctionnement justement du cerveau, comment le cerveau fonctionne, c'est des images quand même très très étonnantes. Et donc, dans quelle situation vous allez l'utiliser, ces approches du fonctionnement cérébral?
Il y a déjà des approches, déjà je dirais pas encore anciennes, mais enfin déjà bien établies, qui sont lorsque, dans les rares formes d'épilepsie qui ne guérissent pas sous traitement, c'est-à-dire c'est à peu près 10% des cas, on peut, et c'est tout à fait amusant, c'est tout à fait particulier, on peut localiser la zone qu'on dit épileptogène, c'est-à-dire d'où part la crise d'épilepsie qui va se généraliser et donner ces tremblements, cette attitude inquiétante. Donc là, c'est un petit peu comme avec un appareil photo. Au moment où on injecte le produit radioactif, on a hospitalisé l'enfant, c'est souvent un enfant d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça, mais il est hospitalisé et au moment où il fait sa crise, il est sous surveillance, vidéo, encéphalographique, etc. On injecte le produit et ce produit va se répartir dans le cerveau en pleine crise d'épilepsie. Mais c'est pas grave, on a une toute petite voie veineuse, on injecte un tout petit peu de radioactivité, c'est un liquide, c'est 2 millilitres, et ce produit va se fixer dans le cerveau. Puis la crise va s'arrêter, on va le calmer, etc. Comme ce produit va rester très stable là où on l'a injecté, c'est comme quand on développe une photographie. Quand on développe la photographie, ce n'est pas ce qu'il y a au moment où on ouvre l'appareil, c'est ce qu'il y a au moment où on a pris la photo. Et donc là, on va voir au repos, lors d'une acquisition de scintigraphie classique, le foyer anormal, en pleine crise, hypervascularisé.
Mais il faut être là pendant la crise, c'est pas évident.
Ah ben, il faut hospitaliser l'enfant. C'est ce que nous faisions.
On peut attendre longtemps avant qu'on ait la crise.
Alors, il est hospitalisé la veille, les traitements sont diminués, c'est dans un service, bien sûr, tout à fait de physiologie.
Le fait de diminuer va faire que...
Ah oui, ça favorise. Voilà, ça favorise, on empêche un peu de dormir, enfin, c'est sous surveillance, mais tout ça est... Et quelquefois, c'est un peu difficile.
Alors, qu'est-ce que vous en faites une fois que vous avez...
Alors, une fois qu'on a fait ça, on refait faire le même examen, mais cette fois-ci, sous traitement, hors de crise. Et on va comparer les deux images, les soustraire mathématiquement, et on voit précisément où est le foyer sur lequel il faut intervenir.
Une fois vous savez où est le foyer.
Eh bien, le neurochirurgien. Alors, on va fusionner ces images avec une IRM.
Ouais.
Là, c'est des fusions mathématiques. Et le chirurgien voit nettement sur une IRM la petite tache, où est parti le foyer, où la petite tache, où est parti le premier foyer, puis le deuxième, et ainsi de suite.
Et là, il va pouvoir intervenir chirurgicalement.
Absolument. Avant, ou encore quelquefois quand ça ne marche pas, parce qu'il faut être tout à fait raisonnable, ça marche, mais pas dans tous les cas, il faut retirer le scalp et mettre des électrodes sur le cerveau de l'enfant. Hein. C'est un enregistrement direct sur le cerveau, ce qui n'est pas douloureux, mais enfin, il faut, c'est quand même...
Mais le cerveau n'est pas douloureux.
Le cerveau n'est pas douloureux, mais la peau, le scalp...
On peut le prendre à pleine main.
Exactement. Bon. Alors, il y a ça, et puis il y a bien sûr tout ce qui concerne les tumeurs, les gliomes, les accidents vasculaires cérébraux aussi, hein, les gens aussi qui ont des séquelles de traumatisme.
C'est quand même assez extraordinaire dans les accidents, sur la vascularisation.
Ah, tout à fait. Ce d'autant que, si vous voulez, en IRM, on va voir des perturbations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IRM va vous donner des informations sur la répartition des protons. Hein, donc, alors les protons, oui, qu'est-ce que c'est? Disons, les protons, c'est un ion H+, je sais pas comment dire ça. Enfin, une particule particulière.
C'est pas les neutrons.
Non, voilà. c'est ce qui compose la majeure partie de l'eau. Hein, c'est de l'oxygène et deux protons. Donc, ça va vous donner beaucoup de renseignements sur l'eau et son environnement. Donc, il est certain que quand il y a une maladie, l'eau sera plus ou moins mobile dans des tissus en bonne santé et moins mobile dans des tissus cancéreux. Donc, on tire d'une approche très indirecte des informations qu'on veut histologiques, anatomiques, fonctionnelles. Alors qu'en médecine nucléaire, vous allez injecter au contraire un produit qui va vous renseigner si la cellule se multiplie. Ça va être des produits qui seront normalement directement mis dans la synthèse du DNA. D'autres qui vont être mis dans la synthèse des protéines, et en particulier des protéines membranaires. D'autres qui vont être mis sur le fait que la cellule souffre, n'a pas d'oxygène ou pas, et on sait que sans oxygène, la radiothérapie ne marche pas bien. Donc on sera sur une tumeur là où il faut augmenter la radiothérapie parce que la zone est hypoxique et pas l'autre, là où il y a des récepteurs, là où c'est vivant. Donc on peut, avec différents traceurs, avoir un nombre d'informations. Là, on prend l'exemple des tumeurs du cerveau, mais de même nature. Et pour les cancers ORL, pour des cancers du sein, tout ça, c'est pareil.
Est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir accès au cerveau du fœtus et connaître un peu mieux ça
par la médecine nucléaire?
Ouais, et avoir un peu mieux ça.
Je pense que rien ne s'y oppose, sauf peut-être des raisons pas philosophiques, morales ou de crainte pas justifiées. Hein. En théorie, pour moi, rien ne s'y oppose.
Un problème de dosimétrie. Sujet sur lequel on reviendra.
Mais c'est votre non, mais est révolutionnaire, justement.
Ben, oui, mais c'est vrai que nous, obstétriciens, on est souvent préoccupés par l'état de santé du fœtus.
Bien
on
sûr.
A peu d'approche.
Bien sûr.
Et en particulier, y a-t-il une souffrance cérébrale? Ouais. A-t-elle laissé des séquelles ou pas? Alors, on va le savoir post-naissance, mais voilà, on devrait le savoir après.
Ouais. Donc, et puis là, la révolution, ça a été justement d'avoir différents, pas un, mais différents produits qui marquent les fameuses plaques amyloïdes, ce mastic qui se colle entre les neurones et qui crée tous ces troubles. On sait que le trouble est de nature. Il y a à la fois la dégénérescence neurofibrillaire, donc disons l'organisation des neurones qui ne transmet plus bien parce que les voies ferrées sont cassées, etc. Et puis le mastic entre les cellules, donc ça c'est ce qui crée... Bon. Mais aussi on s'en rend compte grâce à ces techniques. Alors le diagnostic de la maladie, depuis la médecine nucléaire, a changé. Les critères ont été établis depuis 4 ans. La médecine nucléaire est devenue indispensable. Avant, on considérait que pour faire le diagnostic d'Alzheimer, qu'il fallait sur une IRM d'un prix particulier, d'une technologie particulière, dans une incidence, c'est-à-dire la tête était mise dans un positionnement inhabituel par rapport à l'IRM cérébrale, il fallait que deux petites zones qu'on appelle hippocampe, parce que c'est en effet l'aspect d'un S, hein, soient diminuées de taille. Mais avant que la taille soit diminuée de n'importe quoi, de votre muscle ou autre, si vous avez une paralysie ou un mauvais... C'est déjà bien avancé.
Mm-hmm. Hein? Donc là, c'est vrai que, comme on le disait, pour toutes ces maladies, que ce soit Alzheimer, Parkinson aussi.
Parkinson. Hein.
Donc toutes
démence à corps de Lewy, démence frontale, démence. Aujourd'hui, grâce à ça, simplement par la localisation des anomalies, on fait le diagnostic. Alors, on pouvait plus ou moins cliniquement, hein, faut pas. Mais là, on a complètement démultiplié les formes cliniques. Et c'est très important, parce qu'on pourrait dire, oui, mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de ces maladies n'ont pas de thérapie bien probante.
Hein. Oui, mais enfin, c'est comme toujours. En médecine, il faut d'abord reconnaître.
Absolument.
Et ensuite, on peut traiter.
C'est ça l'idée.
Parce que sinon,
si on mélange plusieurs pathologies et qu'on fait un traitement, on perd le message. Donc, ça permet déjà, dans un premier temps, de sélectionner les patients qui vont avoir un traitement le plus adapté possible.
Donc, on a vraiment un champ, là, qui s'est,
oh, énorme,
c'est le cas de le dire, d'ailleurs. C'est un champ qui s'est ouvert,
oui,
pour le diagnostic et qui n'est pas prêt de s'arrêter.
Non.
Ce qui veut dire que je vous repose la première question, à savoir, est-ce que la France est bien placée après ce retard qu'on vous,
oui,
nous avez expliqué?
Oui, oui.
Est-ce que, parce que tous les organes vont avoir besoin de cette approche fonctionnelle.
Tout à fait, tout à fait. Alors, nous avons à peu près maintenant l'équivalent d'une carte sanitaire de 85 à 100 PET, c'est ma fameuse machine qui utilise cette technologie.
Émission, tomographie,
oui,
d'émission.
Ah oui, alors oui, c'est aussi, il faut dire un mot parce que tout, voilà, ce jargon est souvent mal compris. Alors en anglais, c'est PET, positron, on dit pas positon, on dit positron, émission, tomographie, donc une tomographie par émission de positon. En français, évidemment, on inverse tout, donc c'est TEP, donc c'est tomographie par émission de positon. Donc en anglais, ça va être PET, et en français, ça devrait être TEP. Mais nos collègues belges, comme je vous l'ai dit, ont eu 17 machines avant qu'on en ait une en clinique, avaient choisi un mot encore un peu francisé et anglicisé, PET scan. En fait, le scan, c'est la radio celluloïde, c'est pas l'examen. Mais ça a bien plu, parce que quand c'est arrivé en France, certains radiologues éminents, membres de sociétés, présidents de sociétés, expliquaient que c'est une discipline qui devait sortir de la médecine nucléaire, elle devait être en radiologie, puisque c'était du PET scan, il y avait un petit scanner associé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et que donc c'était simplement de la radiologie, avec un nouveau contraste, hein, le produit qui était ce sucre particulier qui montrait...
Vous voulez dire qu'il y avait une petite bataille entre les radiologues qui utilisent
bataille,
donc un certain...
Qui s'est calmée maintenant, alors elle n'a jamais été universitaire, hein, parce que... Les universitaires avaient bien d'autres chats à fouetter, de développer l'IA.
Il y avait des parts de marché.
Il y avait des parts de marché. À la fois pour les industriels, qui avaient beaucoup plus de clients à vendre. Et puis, on essayait d'expliquer que la partie scanner qui était dans la médecine nucléaire, qui est le propre de chaque médecin, en fait, hein, parce qu'on ne fait pas de diagnostic. On fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on met des taches sur des coupes anatomiques.
Très bien. Donc, on voit que, voilà, il y a une multiplicité d'approches diagnostiques qui peuvent se répartir entre différentes spécialités, mais dont la partie médecine nucléaire prend de plus en plus de place. Vous avez insisté sur l'approche des organes cachés, comme le cerveau, mm-hmm, en particulier. Et pour terminer cette émission, j'aimerais que vous nous parliez quand même de l'action médicale, c'est-à-dire de la thérapeutique, et surtout qu'on peut utiliser dans le cancer.
Alors la plus ancienne, évidemment, c'est l'iode radioactif, hein, qui était utilisé pour les cancers de la thyroïde et leurs métastases, puisque selon que les tumeurs sont plus ou moins bien proches de la cellule normale thyroïdienne, elles vont bien capter l'iode. Et dorénavant, on l'a donné déjà il y a près de 20 ans pour les métastases osseuses. On prenait un équivalent de calcium, ce qui s'appelle scandium, peu importe, ou un produit, là encore, qui était, le vecteur était du phosphate, et on mettait dessus des produits radioactifs forts, hein, le samarium, le holmium, enfin peu importe, pour faire ces irradiations. Et puis plus récemment encore, alors il y a eu aussi un médicament qui était particulier, qui était un anticorps, qui existait dans le traitement de certains lymphomes,
oui,
et qui là, on fixait sur lui un isotope radioactif fort encore, qui pouvait faire de la thérapie, de l'yttrium. Et donc, on a commencé comme ça à faire du traitement de différentes tumeurs dans le cadre du lymphome. Et maintenant, on arrive carrément aux tumeurs solides, parce que là, c'est quand même un cancer un peu diffus, un peu mou, devrais-je dire, enfin sanguin, hématologique. Là, on arrive à faire, avec des résultats faramineux, les gens, ce qu'on appelait autrefois les tumeurs neuro-endocrines, qu'on doit appeler dorénavant endocrines, mais qui sont des cellules qui sont essentiellement issues du pancréas et qui donnent des tumeurs anormales, qui vont sécréter des hormones qu'on appelle glucagon, insuline, que sais-je. Et donc là, on a des produits qui se fixent directement sur le récepteur de ces tumeurs et qui vont irradier localement. Et on voit des masses tumorales, hépatiques ou intestinales diminuer de façon fantastique. Mmh. Fantastique.
Et si je dis le mot théranostic,
eh bien justement,
qu'est-ce que vous dites?
C'est un peu comme ça que ça a été fait. Dans la mesure où ce qui est particulier de la médecine nucléaire, c'est qu'en effet, on a affaire à un vecteur. Hein, c'est vraiment une médecine, vous l'avez dit, c'est pour ça que ça m'a passionné, et je suis tombé dessus vraiment par hasard, mais que je suis passé de la physiologie, donc de la médecine interne beaucoup, hein, à la médecine nucléaire, où il y a tous les champs, il n'y a pas d'exception, c'est vrai. Ben, si vous prenez ce vecteur spécifique et que vous mettez dessus un radionucléide, un petit isotope, une petite lumière dont on a parlé souvent, qui émet un peu de radioactivité pour le repérer, c'est un produit diagnostique. Si maintenant vous prenez la même molécule vectrice, le même produit chimique, et que vous mettez dessus un radionucléide qui est méchant, qui va émettre des rayons, des particules bêta, donc des positons, hein, par exemple, voire même, ça explique encore, bon, ça sera peut-être des particules alpha, elle va se fixer là où vous avez vu qu'elle se fixait, donc là où il y a la tumeur, et là elle va irradier localement.
Donc elle va être très spécifique.
Très spécifique.
Et éviter de toucher des cellules saines.
Des cellules saines. Et il y a des pathologies, vous savez, où on est obligé de faire une hémiradio. Enfin, on irradie la moitié du corps par des rayons externes, hein, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie, puis l'autre moitié plus tard. Mais en étant dans le champ, on a irradié plein de cellules.
Plein de cellules qui ne demandaient rien.
Voilà. Et donc, du coup, on meurt guéri, si j'ose dire, quelquefois. Enfin, j'exagère, mais c'est quand même assez négatif. Là, on est très, très spécifique.
Et donc il y a un véritable progrès dans la, comme vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, Alain Prigent, non seulement d'une faible dose, quantitativement on a baissé, oui. Les, il n'y a pas de risque, on le répète, vraiment de l'utilisation de la médecine nucléaire, en tout cas bien faite, bien conduite.
En diagnostic, hein, en thérapie évidemment.
En diagnostic, et par contre on a progressé en termes thérapeutiques en évitant d'irradier ce qui ne devrait pas être irradié,
alors,
en tous les cas en diminuant.
Il faut comprendre quand même que là, on a encore peu ce type d'activité, hein, parce que le prescripteur de ça, c'est pas le médecin nucléaire ou c'est pas le médecin interniste, c'est le radiothérapeute. Et il faut avouer que dans les centres anticancéreux, beaucoup du financement tout à fait nécessaire de ces instituts passe par la radiothérapie. Donc on va pas forcément beaucoup
favoriser. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on va faire de la radiothérapie parce que financièrement on est obligé de le faire alors qu'on a mieux.
La radiothérapie, je pourrais raconter une histoire qui est arrivée pour le premier produit de ce type-là quand elle a obtenu son autorisation de mise sur marché. Mais quand il y a une ou deux grosses tumeurs, il est tout à fait logique qu'on ait un champ limité de radiothérapie externe, hein, de cobaltothérapie, voilà. Mais quand vous avez commencé à avoir des métastases multiples, on tombe dans le champ de ce qu'on vient de dire là. Si vous irradiez toutes ces tumeurs, tous ces champs, il y a plein de substances, de matières saines.
Des effets collatéraux.
Voilà. Donc, quand la maladie est plutôt diffuse, généralisée, oui, on devrait beaucoup plus souvent utiliser ces produits. Et ils le sont pas encore suffisamment en France.
Donc, vous les incitez, je dirais, aux médecins à regarder toutes les possibilités.
Il faudrait que les radiothérapeutes eux-mêmes soient impliqués.
Peut-être des conférences pluridisciplinaires. Qu'est-ce qui est mieux pour tel ou tel
patient ? Mais c'est pour ça aussi que la médecine nucléaire s'est développée, c'est grâce à ça. Hein, on a imposé des conférences multidisciplinaires qui rejoignent en effet l'anapath, le chirurgien, le médecin, le radiologue, le médecin nucléaire. Et là, on a beaucoup progressé. Ça a été très important parce que ça a permis aux cliniciens de voir que on n'était pas des biophysiciens avec la règle et le calcul qui connaissaient pas la médecine.
Mais c'est vrai que dans les réunions qu'il y a sur les problèmes cancéreux, ouais, sur lesquels il y a justement cette réunion pluridisciplinaire, le sentiment que j'ai, mais c'est peut-être, c'est que justement les médecins nucléaires sont peut-être pas suffisamment représentés.
Vrai. C'est vrai aussi.
Parce que dans les alternatives au traitement proposé, il y a peut-être un élargissement.
Là où ça marche très bien, c'est là où les médecins. Alors souvent, les équipes sont pas très nombreuses, mais enfin, ça doit être une priorité du chef de service, c'est qu'en effet, les membres de l'équipe de médecine nucléaire assistent à certains staffs. C'est
oui,
tout à fait déterminant.
Ben, je crois que c'est déterminant.
Tout à fait déterminant.
Et puis, il faut que les autres comprennent. Pas tout le monde va écouter France Culture, encore que. Mais il faut que même les médecins comprennent qu'il y a d'autres possibilités d'action qui est en pleine révolution.
Ah,
vous
oui,
l'avez dit, Alain Prigent.
Ouais.
Et que ça nous permet d'élargir la palette. Je pense que pour les auditeurs qui sont intéressés, pour revenir sur la définition par les lectures qui sont accessibles sur les différents moyens diagnostiques, moyens thérapeutiques, en tous les cas, Il y a une avancée incontestable et la médecine nucléaire ne doit pas être diabolisée, au contraire.
Au contraire,
elle
oui.
doit être intégrée dans le processus, surtout des maladies graves. Comme on dit, et jusqu'à là qui étaient incurables et qu'elles deviennent
oui, c'est vrai.
De moins en
chronique.
Moins, heureusement. Merci d'être
merci,
venu
merci votre invitation.
Avec nous sur France Culture. Et nous voici donc sur cette émission de René Friedman qui a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Dany Journeau, qui émet un rayonnement tout à fait spécifique d'ailleurs, je tiens à le dire, avec Philippe Palares à la prise de son. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le site internet de Révolution Médicale et podcaster cette émission durant un an, la réécouter pendant 1000 jours sur le site internet de France Culture sur www.franceculture.fr. Il y a un point entre les 3 W et France Culture, comme vous le savez. Demain, comme tous les jours, vous avez rendez-vous avec Culture Science et cette semaine, comme je l'ai dit, c'est les 70 ans du CEA, d'où cette émission sur la médecine nucléaire. Et donc, demain, ça continue sur France Culture avec Planète Terre de Sylvain Kahn et tout de suite, Les Bonnes Feuilles, puis à 15h, Culture Musique. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.